Bonjour, je suis Clotilde Seille. Je vous propose une émission des livres pleins les oreilles spéciale aujourd'hui. En septembre dernier, au restaurant Au Noir, a eu lieu une rencontre en direct entre lecteurs et clients qui dégustaient, des papilles et des oreilles, un délicieux repas et de sublimes extraits de livres produits par Vues et Voix. Je vous invite à me suivre, on se replonge dans la noirceur de ce restaurant. Et bienvenue, chers convives, à ce deuxième souper littéraire que l'organisme Vues et Voix propose aux festivaliers du Festival international de la littérature, le FIL. Le succès de l'édition de 2017 et les leçons que nous en avons tirées nous permettent de vous proposer cette année un programme exceptionnel. C'est Clotilde Seille qui vous parle, animatrice de l'émission « Des livres pleins les oreilles » à Canal M, la radio de Vues et Voix. Entourée de mes collègues, lecteurs et lectrices bénévoles auxquels s'est joint notre invité d'honneur, l'écrivain québécois Jean-François Beauchemin, je vous accompagnerai tout au long de ces agapes. Ah, au fait, est-ce qu'on vous a dit de vous habiller en couleur sombre ? Au restaurant Au Noir, une tâche est si vite arrivée. Gourmands et friands de mots, vous méritez toute notre admiration d'avoir accepté de vivre et parfois même de revivre cette expérience littéraire, olfactive et gustative dans l'obscurité la plus totale. Vous voici donc vous-même plongé dans la thématique de cette année, la cécité. Tout au long de ce repas, vous découvrirez des personnages non-voyants imaginés par des auteurs qui, tout au plus, portent des lunettes et des témoignages extraits de journaux intimes ou de récits signés par des aveugles. Nous remercions vivement les écrivaines et écrivains ainsi que leurs éditeurs qui nous permettent d'utiliser quelques-unes de leurs pages. Les éditions Libre Expression du groupe Livre Québécois Média, le MEAC éditeur, les éditions des Arènes et les éditions du Sous-Sol, deux maisons liées aux éditions du Seuil. Par un retour dans le temps. Publié en 2015 chez Libre Expression, La jeune fille au piano est un roman de Louise Lacourcière qui situe l'action à l'époque où le braille était la seule façon pour les aveugles de lire et de communiquer autrement que par la parole. Les technologies numériques n'avaient pas remplacé les instruments mécaniques d'écriture et de comptabilité. On part à la rencontre d'Anne Allary, 16 ans, aveugle depuis l'âge de 3 ans, passionnée de musique et de piano. C'est du reste la raison qui lui fait quitter le giron familial installé dans le petit village de Saint-Léon-le-Grand pour la grande ville qu'est Montréal. Elle devient pensionnaire de l'Institut Nazareth en option musique, bien sûr. Sœur Beauchemin, professeur de piano, prendra ainsi le relais de Madame Vallée, qui l'avait d'abord initiée à cet instrument au village. Peu après son arrivée, Anne écrit à ses parents. Nous vous proposons ici la lecture de cette lettre, telle qu'écrite par la petite Anne, et lue par Marie-Claude Brasseur, la lectrice officielle de cet ouvrage, produit par Vues et Voix, qu'on peut se procurer gratuitement lorsqu'on a recours au service du SQLA, le service québécois du livre adapté, ou qu'on peut aussi acheter via Audible Canada, quand on a envie de se faire raconter une histoire.
Vous souvenez-vous, papa, de Philomène Marquis ? Elle était près de nous lors de notre arrivée dimanche dernier. C'est à elle que sœur Clémentine Lemieux a confié la tâche de m'initier au lieu et à la vie du pensionnat. Elle est devenue mon amie. Elle est si gentille. Chaque jour, Philomène m'aide à devenir plus autonome. Après une semaine, Je peux presque me conduire d'une pièce à l'autre, d'un étage à l'autre. Dans la cour de récréation, par contre, je n'ose pas encore m'aventurer seule. Mais ça viendra, ne vous en faites pas. Papa, je dois apprendre à calculer avec un instrument dont je ne soupçonnais pas l'existence. Il s'agit d'une tablette percée de trous à 8 côtés, dans lesquels on rentre des bâtonnets qui, selon la position qu'on leur donne, représentent les chiffres et on résout des problèmes avec ça. Il paraît qu'au prochain cours d'arithmétique, on s'initiera aux états des revenus et des dépenses avec comme résultat des pertes ou des profits. Pour l'instant, c'est du chinois pour moi. La première fois qu'on a utilisé la tablette Taylor, qu'on appelle comme ça à cause de son inventeur, j'avais l'air d'une vraie niaiseuse. Par chance, sœur Lumina Poirier, notre maîtresse d'école, a permis à une de mes compagnes de me montrer comment m'en servir. Elle se nomme Florida. Elle est albinos. Je ne savais rien de cette maladie. Et vous? Maman, je m'ennuie de votre cuisine, surtout au déjeuner où on nous sert une étrange bouillie en guise de gruau. Je vous assure qu'on est loin de votre délicieuse recette. Mais je dois avouer que la plupart du temps, surtout pour les desserts, c'est bon. Pas meilleur que chez nous, là, maman. Si vous saviez comme j'aime mes cours de piano. Mais seulement depuis vendredi, jour où j'ai commencé à m'initier à la lecture des partitions en braille. C'est facile, papa. Les 7 notes d'une gamme sont identifiées par une lettre en braille. Il faut s'imaginer qu'on ne lit pas des lettres, mais des notes. Je vous explique. Les 3 points de la lettre D représentent un Do. Les 2 en diagonale du E, un Ré. F désigne un Mi, G un Fa, H un Sol, I un La et J un Si. Pas de portée, pas de clé de Sol ou de Fa. Sœur Beauchemin avait raconté qu'au premier temps de l'Institut, quelques 30 années auparavant, on avait tenté d'enseigner aux élèves aveugles des partitions écrites avec des portées traditionnelles, mises en relief, mais l'expérience s'était avérée bien trop ardue. Dès que les religieuses avaient fait l'essai de la partition en braille, une manière intelligente et aisément compréhensible pour ceux qui connaissaient déjà l'écriture en braille, elles l'avaient adoptée. Avec Madame Vallée, je devais retenir par cœur la durée de chaque note, comme les rondes, les croches, les doubles croches, sans référence autre que ma mémoire, quand je me retrouvais seule à m'exercer. Mais en braille, il existe une convention pour les reconnaître, et c'est si simple. Par exemple, si la note n'est représentée que par la lettre braille, comme D pour Do, il s'agit d'une croche. Si on veut représenter une noire ou des quadruples croches, on aura un O, accent circonflexe, pour le Do, U, accent circonflexe, pour le Ré, E, tréma, pour Mi, etc. Tout est prévu, tant la durée de la note, sa hauteur ou les altérations à la baisse ou à la hausse, j'entends par là les dièses et les bémols. Ça me fascine. C'est pas compliqué de lire des notes, mais les transposer sur un clavier, c'est plus difficile. Mais j'y arriverai, ne vous inquiétez pas. Je continue mon apprentissage avec plus que de l'intérêt, j'oserais dire avec passion. La musique...
Il vous reste 10 minutes, il faut conclure.
Quelle voix désagréable! Songea Anne pour la énième fois en entendant Sœur Sainte-Judith. Elle poursuivit sa composition avec plus d'empressement. La musique me comble. Toutes les religieuses à qui j'ai affaire sont si gentilles, à l'exception de Sœur Sainte-Judith. Elle guette chacun de nos pas, et à ses yeux, on dirait que ce ne sont que des faux pas. Rien ne la satisfait, et elle ne se gêne pas pour nous rabrouer. Je ne suis pas la seule à penser cela. Elle est bête avec toutes les filles, et en plus, elle sent le dessous de bras. Elle a la même voix au perché que la grand-mère d'Arthur Pelletier. Vous savez, la femme du cordonnier décédée il y a quelques années. Vous rappelez-vous, papa, lorsque vous m'aviez amenée au magasin général de Monsieur Fortin, elle était là. Elle avait été si méchante avec nous. Comme c'est l'une des rares fois où j'y suis allée, je m'en souviens très bien. Elle vous avait apostrophé. Comment osez-vous parader en public avec votre aveugle? Je ressens encore ma peine. Vous, papa, vous étiez en colère. Mais aviez-vous aussi du chagrin? Voilà, je suis obligée de vous quitter. J'ai tellement hâte de vous revoir. Noël me semble bien loin. Mais ne vous inquiétez pas. Ici, il y a bien plus de bons moments que de mauvais. M'écrirez-vous ? Votre fille reconnaissante, Anne.
Voici maintenant une autre arrivée à Montréal, dans les années 2000 cette fois-ci. Jacques Semelin, auteur, professeur et politologue français, est devenu aveugle dans la cinquantaine. Directeur de recherche au CNRS, il enseigne depuis presque 20 ans à l'école de Sciences Po à Paris. En 2015, il est invité par l'Université de Montréal à donner des cours sur des sujets qui lui sont familiers. Au retour de ce premier long séjour à l'étranger, il écrit le récit de cette virée québécoise, peuplée de rencontres et semée d'embûches. Extrait de « Je veux croire au soleil » publié en 2016 aux éditions Les Arènes, l'avion de Jacques Semelin va atterrir à Montréal. Notre professeur vient de franchir la douane et Jacques Tremblay nous raconte la suite.
Reste encore la dernière étape, celle de la récupération de ma valise. Qu'est-ce que j'ai pu angoisser à ce propos ? Voici des années, alors que j'y voyais toujours un peu, je n'avais pas encore osé solliciter une assistance dans les aéroports. Je me rapprochais le plus possible du tapis pour observer ces masses noires, grises, bleues, qui défilaient devant moi. Elles se ressemblaient toutes. Je restais là, à en scruter les formes, ne sachant déterminer si mon propre bagage était déjà en train de faire sa ronde sur le tapis roulant. Que d'anxiété et d'obstination pour rien. Il existait une solution évidente pour surmonter cette épreuve, mais je ne voulais pas l'envisager. Je ne parvenais même pas à l'imaginer, puisqu'elle impliquait un saut psychologique alors inconcevable. L'individu exerce parfois une résistance farouche à se faire aider. S'il peut y arriver seul, laissez le don tranquille, il peut le faire. C'est pour lui une question de fierté, sinon d'honneur. Observons que pour d'autres, il s'agit bien plutôt d'une question de confort, voire de luxe. Ainsi, des gens très riches n'hésitent pas du tout, eux, à se faire aider. Ils en ont les moyens et ils en profitent. Mais dans mon cas, se faire aider conduit bien plutôt à reconnaître un effondrement de soi. On ne peut plus faire ceci ou cela. Telle partie du corps, tel organe, tel sens ne répond plus comme avant. Se faire aider revient ici à devoir admettre son infériorité physique en quelque chose, une infirmité en somme. Quel mot horrible. Je ne sais pourquoi ou je le sais trop bien. Il y a quelque chose qui plombe, quelque chose qui tue. Comment empêcher ce naufrage de soi ? Il n'y a pas de recette. La seule issue viable, il me semble, est encore de tendre la main pour qu'un autre la saisisse et vous évite de couler. Au moins vous aidera-t-il à maintenir la tête hors de l'eau et peut-être fera-t-il plus. Il vous apprendra petit à petit à nager avec un autre mental, celui de votre dépendance assumée. Dès lors, il se produit une mutation de soi. On en a un peu honte, on hésite encore, mais on franchit le pas. On se déclare comme aveugle, blind, au moment de la réservation d'un billet d'avion. Alors, tout devient plus facile, car on va être aidé. Au diable, cette inquiétude, cette crainte de vous mettre dans des situations dont vous ne pouvez plus sortir vainqueur. À votre descente d'avion, la récupération de vos bagages cesse d'être un problème. Il y aura quelqu'un pour vous assister. Il suffira d'apposer sur la valise un signe distinctif qui permettra à l'employé de l'identifier. C'est aussi simple que ça. Mais la mutation psychologique pour accepter cette nouvelle situation, elle, ne l'est pas. Ce jour-là, ma valise était donc décorée, avec un magnifique scotch jaune fluo, sans doute du plus bel effet. Quand les bagages sont arrivés, le jeune homme ne pouvait pas la rater. Nous nous sommes aussitôt dirigés vers la sortie où l'on devait m'attendre, car j'ai précisément souhaité une aide pour mes premiers pas dans Montréal. Je n'ai pas eu envie de jouer au héros, qu'au moins quelqu'un vienne me chercher à l'aéroport et m'accompagne dans mes premières démarches. C'est Diane, la présidente de l'association Vues et Voix, qui s'est proposée pour m'accueillir. Tandis que nous approchons de la sortie, j'entends tout à coup un « Bienvenue à Montréal !» Alors là, plus possible d'avoir le moindre doute quant à l'endroit du monde où je viens d'atterrir. Diane possède un savoureux accent québécois qui vous met tout de suite au diapason de son pays.
Quand descendre un sac de poubelle revient à monter l'Everest, cela donne de joyeuses pages de lecture. Nous sommes quelque part sur le plateau Mont-Royal, où notre auteur tente de convaincre une propriétaire à la délicatesse, comment dirais-je, d'un oursin, qu'un aveugle, ça peut tout faire. Tout, y compris descendre ses vidanges du troisième étage. Ouf.
Il faut bien que je me décide à y aller. J'ai retardé depuis plusieurs jours cette expédition. Mais je n'ai plus le choix. J'ai accumulé dans la cuisine 3 sacs poubelles et ils commencent à sentir. Or, c'est aujourd'hui que doit passer dans le quartier le camion de ramassage des sacs de vidange. En prévision de sa venue, les habitants les déposent dans un coin de la rue. Donc, je dois prendre mon courage à deux mains et surmonter mon anxiété. Il va bien falloir que je m'engage sur cet escalier de malheur et que j'affronte l'inconnu pour trouver enfin, du moins je l'espère, le lieu où chacun dépose ses déchets. Donc, je réunis mes forces. Et, une fois pris mon petit déjeuner, je me saisis de mon arme, ma canne blanche, et de mon casque, mon chapeau à large bord. J'ai un plan. D'abord, faire le repérage des lieux, puis revenir chercher les sacs. J'ouvre la porte extérieure du balcon terrasse. J'oblique légèrement sur la droite et j'amorce ma descente. Je respire un bon coup et m'enfonce doucement dans le gris qui m'aspire vers le bas. Effectivement, cet escalier est raidasse et vaut mieux se tenir à la rampe. Je compte une 20aine de marches et je parviens à un palier. Il doit bien y avoir un petit appartement aussi à ce niveau, sinon 2. Je continue ma descente avec prudence, vérifiant chaque fois où je pose le pied. Je dois avoir l'air ridicule avec ma canne et mon chapeau, pourvu que personne ne me voie. Oh, après tout, tant pis. Mieux vaut mettre toutes les chances de mon côté. Je compte encore une 20aine de marches. Elles sont vraiment petites. Il faut faire attention de ne pas les rater. Soudain, ma canne touche le sol, arrivée sur la terre ferme. Ouf! Je reprends pied et je fais une pause. Alors, je me lance dans une première exploration du lieu où je viens d'arriver. À ma droite, je touche la grille qui marque la clôture de la propriété avec la rue. Mais où en est l'ouverture? Je pose ma canne et me sers de mes 2 mains pour en ausculter les barreaux. Je cherche une poignée ou un loquet qui pourrait m'indiquer l'emplacement de la porte. Rien. Je ne vais quand même pas rester bloqué ici, derrière cette grille, comme un idiot. Pardon, monsieur, puis-je vous aider? Ça y est, j'ai été repéré. La voix m'est arrivée d'en haut, juste au-dessus de ma tête. C'est celle d'une jeune femme qui, je le comprends tout de suite, doit occuper l'appartement du premier. Je cherche à ouvrir cette grille pour déposer mes poubelles dans la rue. Je comprends, j'arrive tout de suite. Clac, 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 clac. Les talons de ses chaussures résonnent sur les marches en fer. Elle devait être sur le point de partir de chez elle. M'ayant rejoint, elle m'indique. « Regardez, c'est ici. » Puis, comprenant sa méprise, elle me prend la main pour la mettre à la hauteur d'un loquet. Il faut le soulever, comme ça. Elle me laisse faire le geste et la porte s'ouvre sans problème. Merci. Pourriez-vous aussi me montrer l'endroit où on dépose les sacs de vidange? Tout en parlant, je me suis un peu avancé vers l'extérieur et ma jambe a touché une voiture garée juste là. Je comprends que celle-ci occupe une place de stationnement aménagée pour des résidents du quartier. Tout en marchant devant moi, je frôle la carrosserie avec la main et ce mouvement me conduit au début du trottoir. J'en déduis que la voiture est garée perpendiculairement à la rue. La jeune femme qui m'a suivi des yeux me dit alors, « Pour trouver l'endroit où on met les sacs, il suffit maintenant que vous tourniez à gauche. En longeant le trottoir, vous allez nécessairement tomber sur la haie près de laquelle on les dépose. » Je m'exécute et ma main finit par toucher un feuillage. « C'est là !» me lance-t-elle. J'ai compté 7 pas depuis la grille et je m'exclame aussitôt, « Mais c'est facile !» En un instant, c'est une grosse boule d'angoisse, ou plutôt d'anxiété qui me paralysait depuis des jours, qui vient de s'évanouir dans la fraîcheur du matin. Depuis mon arrivée, je me faisais une montagne de cette affaire des escaliers et de la poubelle. Je finissais par douter de pouvoir percer mon mur en cet endroit précis, trop épais parce que trop chargé d'inquiétude. Jamais je ne pourrais y faire une ouverture pour m'y frayer un chemin, me répétais-je. Et c'était si simple. Je viens de creuser un nouvel espace dans ma grotte intérieure. Un espace dans lequel je saurai désormais me mouvoir. Descendre avec prudence l'escalier métallique, ouvrir en bas la porte de la grille dont le loquet se trouve à peu près à la hauteur de mon épaule, faire 3 pas devant moi pour atteindre la rue, obliquer alors à 9h, puis faire 7 pas jusqu'à la haie, y déposer mon sac de vidange et remonter en appliquant la procédure en sens inverse. Je remercie la jeune femme pour son aide. Celle-ci est étudiante et partage son appartement avec une amie. Elle doit vite partir à ses cours. Je remonte chez moi, cherche les sacs et refais le chemin sans difficulté. Le succès de cette expédition poubelle me met en joie.
Mes amis, on va poursuivre. Nous allons découvrir l'univers de John Hall, Australien d'origine, fils de pasteur baptiste, un homme qui a fait carrière en Angleterre, puis aux États-Unis. John Hall qui a consigné le long chemin qui l'a conduit vers la pénombre dans un journal de bord, publié en français sous le titre de « Vers la nuit » chez Lafon en 95. Quelques années plus tôt, le même texte était paru aux États-Unis sous le titre de « Touching the Rock ». Si John Hall n'a jamais recouvré la vue jusqu'à sa mort en 2015, son journal, lui, est récemment ressorti au grand jour grâce aux éditions du Sous-sol chez Seuil. Ça s'appelle « Vers la nuit ». Toujours pertinente et lumineuse, voici quelques pages qui évoquent l'inexorable impasse qu'est la cécité. Quelques pages lues par Michel Keble, qui vous éclaireront, certainement même dans le noir, sur la réalité d'une personne aveugle et le développement magique et nécessaire des autres de ses sens.
Pendant mes 2 premières années de cécité, les gens pour moi se divisaient en 2 groupes. Ceux qui avaient un visage et ceux qui n'en avaient pas. C'était un peu comme une visite à la National Gallery. Il y a des rangées de portraits, et soudain, un vide. On sait que là se trouvait un tableau parce que sa marque et une petite étiquette portant son nom sont restées sur le mur. Ce portrait a peut-être été prêté, ou bien il est en restauration. Les gens que j'ai connus avant de perdre la vue ont un visage, mais ceux que j'ai connus après n'en ont pas. Au début, la différence entre ces 2 groupes me gênait. Je n'arrivais pas à les associer. Je connaissais les premiers par leur visage, mais les autres, comment pouvais-je savoir si je les connaissais vraiment? Avec le temps, la proportion de gens sans visage a augmenté. À présent, des pièces entières sont vides et les portraits restants sont recouverts de poussière. Se peut-il qu'un jour, arrivant au musée, j'y trouve la porte close avec cette pancarte « Exposition définitivement fermée ». Depuis 3 ans maintenant, je n'ai plus vu un visage. Bizarrement, je garde une image assez nette d'un certain nombre de personnes que je n'ai pas rencontrées durant ces 3 dernières années. Mais celle de mes proches se trouble. Pourquoi ? En ce qui les concerne, nos rapports se sont poursuivis au-delà de la perte de ma vue. Aussi, l'idée que j'ai d'eux est empreinte des dernières évolutions de nos relations. Celles-ci recouvrent partiellement leur portrait qui perd de sa précision. Dans le cas de gens que je connais bien mais que je n'ai pas vus depuis plusieurs années, rien n'est intervenu pour modifier leur image et lorsque je pense à eux, leur portrait me vient spontanément à l'esprit. J'ai eu beaucoup de chagrin en m'apercevant que je commençais à oublier l'aspect de Marilyn et d'Imogen. J'avais voulu défier la cécité. Je m'étais juré de conserver pour toujours leur visage au plus profond de mon cœur, même si tous les autres tableaux du musée étaient volés. Si je veux retrouver le visage de quelqu'un qui m'est très proche, je dois visualiser une photographie en particulier, une vraie photo datant de l'époque où j'y voyais encore et dont je garde un net souvenir. Quand j'évoque un visage aimé, je ne le ressaisis pas, mais c'est comme si les bords de la photo fixaient avec fermeté ces traits mouvants dans ma pensée et je m'imagine regardant cette image. On me dit parfois que c'est une bonne chose, que dans mon souvenir, Marilyn sera toujours jeune, qu'elle n'aura jamais à s'inquiéter de mon regard quand elle vieillira. Je n'en suis pas si sûr. Il m'est difficile de croire que l'ignorance puisse être préférable à la connaissance. La différence entre ceux qui ont un visage et ceux qui n'en ont pas est encore plus déchirante quand je pense à mes enfants. J'ai beaucoup de souvenirs visuels d'Imogen, qui a 10 ans maintenant. Ils sont surtout fondés sur des photos, mais s'y ajoutent de temps à autre des situations de la vie réelle. Mes quelques vagues impressions du visage de Thomas, qui a presque 3 ans, reposent sur les 6 ou 9 premiers mois de sa vie, au temps où il me restait un vague reste de vue. D'Elisabeth, qui a aujourd'hui 16 mois, je n'ai aucune image visuelle. L'emplacement de son portrait sur le mur est vide. Quelle différence cela fait-il ? Je n'ai pas le sentiment que ma relation actuelle avec mes 3 enfants soit affectée d'une manière quelconque par leur position différente face à ma cécité. Ils sont tous pareils maintenant.
Vous aurez sans doute remarqué, quelquefois, il y avait des petits bruits de couverts ou de tasses. C'est normal puisque nous sommes dans un restaurant au noir. Et d'ailleurs, cette soirée littéraire se poursuit dans quelques secondes sur Canal M. Et on va poursuivre avec la voix merveilleuse de Michel Keble et Jean-François Beauchemin, l'auteur. Vous écoutez l'émission « Des livres pleins les oreilles » animée par Clotilde Seille. Vous écoutez Des livres pleins les oreilles à Canal M. Voici la suite et la fin de cette soirée présentée par Vues et Voix au restaurant Au Noir en septembre dernier, dans le cadre du Festival international de la littérature. Au menu, nourriture terrestre et littéraire.
Toutes les personnes non-voyantes qui ne le sont pas de naissance, la mémoire des couleurs est encore bien vivante. J'ai souvenir d'un ami aveugle qui nous disait que pour lui, chaque jour correspondait à une couleur. John Hall, lui, constate que grâce à ses oreilles, il est capable de déceler les paysages qui s'ouvrent devant lui. Dans le passage que Michel Keble va nous lire maintenant, toujours extrait de « Vers la nuit », nous découvrons les couleurs de l'invisible.
Ce soir, vers 9 heures, je m'apprêtais à sortir. J'ai ouvert la porte, il pleuvait. Durant quelques minutes, je restais éperdu devant cette beauté. La pluie a une façon particulière de faire ressortir les contours. Elle jette un voile de couleurs sur des choses auparavant invisibles. Une pluie régulière substitue à un monde intermittent et donc fragmenté une continuité d'expérience acoustique. J'entends la pluie frapper le toit au-dessus de moi, dégouliner le long des murs, frapper le sol à ma gauche en sortant de la gouttière, tandis que plus loin, là où elle tombe presque silencieusement sur les feuilles d'un grand arbuste, il y a une tache plus claire. À droite, Elle tambourine sur la pelouse avec un bruit plus profond et régulier. Je peux même reconnaître les contours de la pelouse qui s'élève sur la droite en un petit monticule. Plus loin encore, j'entends la pluie résonner contre la clôture qui sépare notre propriété de celle des voisins. En face de moi ressortent les contours de l'allée et des marches jusqu'à la grille du jardin. Ici, l'eau frappe le ciment. Là, elle s'écrase dans des flaques déjà formées. À certains endroits, elle dégringole légèrement de marche en marche. Sur l'allée, le bruit est très différent du tambourinement sur la pelouse à droite, lequel n'a rien à voir non plus avec l'impression feutrée, lourde, trempée que donne le gros buisson à gauche. Plus loin, les bruits deviennent plus indistincts. Je peux entendre la pluie tomber sur la route et le chuintement mouillé des voitures qui montent et descendent. Toute cette scène est bien plus contrastée que je ne peux le décrire, car elle est pleine de légères ruptures de plans, d'obstructions, de projections, où une infime interruption, une différence de texture ou d'écho apporte un détail, une dimension de plus à l'ensemble. Comme une lumière qui tombe sur le paysage, le doux crépitement se fond en un murmure de pluie continue. Je pense qu'ouvrir une porte sur un jardin sous la pluie est une expérience similaire à celle faite par un voyant qui ouvre les rideaux et découvre le monde extérieur. D'habitude, quand j'ouvre ma porte, des sons isolés résonnent dans le vide. Je sais qu'au prochain pas, je rencontrerai l'allée et qu'à droite, ma chaussure touchera le gazon. Quand je serai sur l'allée, les branches de l'arbuste à gauche effleureront ma tête et j'atteindrai alors les marches, la grille, le chemin, le fossé et la route. Je sais que toutes ces choses sont là, mais je le sais de mémoire. Elles ne donnent aucun signe immédiat de leur présence. Je les connais par anticipation. Elles sont ce dont je ferai l'expérience dans les secondes à venir. La pluie présente d'un coup la situation dans son ensemble. Non simplement remémoré ni anticipé, mais perçu réellement et immédiatement. La pluie donne un sens de la perspective et de la vraie relation qu'entretient une partie du monde avec l'autre. Si seulement la pluie pouvait tomber dans une pièce, cela m'aiderait à savoir où sont les choses, où les choses se trouvent, et me donnerait la sensation d'être dans un lieu et non simplement assis sur une chaise. C'est une expérience d'une grande beauté. J'ai l'impression que le monde restait caché jusqu'au moment où je le touche, mais soudainement révélé. Je ressens la pluie comme une grâce. Elle m'offre un cadeau, le cadeau du monde. Je ne suis plus isolé, plongé dans mes pensées, concentré sur ce que je dois faire. Au lieu d'avoir à m'inquiéter de l'endroit où se trouve mon corps et de ce qu'il va heurter, je suis en présence d'un tout, d'un monde qui me parle. Ai-je bien fait comprendre toute sa beauté? Quand la réalité est elle-même variée, complexe et harmonieuse, sa connaissance est empreinte des mêmes caractéristiques. Je suis intérieurement investi d'une sensation de diversité, de complexité et d'harmonie. La perception elle-même est belle, car elle crée en moi un miroir de la réalité à connaître. En écoutant la pluie, je suis l'image de la pluie, et je ne fais qu'un avec elle.
Le livre « Vers la nuit » de John Hall nous permet de mieux comprendre le rapport de l'aveugle aux autres personnes ou aux éléments naturels, comme la pluie. Mais qu'en est-il de son rapport au temps? C'est son collègue, professeur à l'université de Birmingham, Michael, qui l'aiguillonne sur le sujet.
D'après Michael, ma perception du temps a changé depuis que j'ai perdu la vue. Il trouve qu'à la faculté, je suis le seul à paraître disposé de tout mon temps. Tout le monde court sans arrêt, accumule les impératifs minutés. Moi seul ai l'air d'avoir l'éternité devant moi. Je crois qu'il y a beaucoup de vrai dans cela. Le temps des voyants est adaptable. Il va tantôt vite, tantôt lentement. Les voyants peuvent compenser un moment de paresse en se dépêchant par la suite. Il leur suffit de quelques minutes pour réunir leurs affaires. Pour les voyants, le temps est quelque chose contre lequel on se bat. Pour moi, aveugle, le temps n'est que l'instrument de mon activité. Le contexte inexorable dans lequel je fais ce qu'il y a à faire. Par exemple, si je n'ai pas l'air pressé en circulant dans le bâtiment, ce n'est pas parce que j'ai moins de travail que mes collègues, mais parce que je ne peux pas me presser. Il me faut exactement 22 minutes pour me rendre de la maison au bureau. Je ne peux pas le faire en 15 minutes. Et si j'essayais d'en mettre 30, je me perdrais, car ma conscience de l'itinéraire dépend d'une certaine façon de ma vitesse. Avoir un pas mesuré, une calme concentration, se souvenir en permanence du chemin parcouru et de celui qui reste à faire, marquer une pause à chaque repère pour s'assurer que l'on suit la bonne direction, tout cela exige la même démarche contrôlée. Qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, c'est la même chose. Tout dépend aussi de ce que l'on veut arracher au temps. Quand j'y voyais, je travaillais avec une hâte fébrile, corrigeant 40 notes en une matinée. Aujourd'hui, je suis content si, avec l'aide d'un lecteur voyant, j'ai pu en faire 10 à la fin de la matinée. Je ne me dis pas « Oh zut, je n'ai fait que 10 », je pense « Bon, voilà, en voilà 10 ». Encore 3 matinées comme celle-ci et ce sera terminé. Tellement je suis heureux de pouvoir le faire. La simplicité, la planification, la préparation à long terme, le projet mûrement réfléchi qui sont les nécessités de l'aveugle, l'empêchent de gagner du temps en abattant d'un coup une masse de travail. Peut-être toutes les infirmités graves provoquent-elles un rétrécissement de l'espace et un étirement du temps. Je pense à mon ami Chris, atteint d'une sclérose en plaques. Sans son véhicule, son rayon d'action ne dépasse pas une vingtaine de mètres. Avec le moteur qui fait du 6 km à l'heure, son espace s'élargit. Il peut s'éloigner de chez lui de 12 ou 20 km et revenir. Mais son espace s'est réduit par rapport à l'époque où il était en bonne santé. D'un autre côté, le temps s'est étrangement distendu. Il lui faut 45 minutes pour lacer ses chaussures le matin. Tant pis, il ne s'impatiente pas, il le fait. C'est le temps nécessaire pour nouer ses lacets. Quand on a beaucoup de temps, on fait l'expérience de l'inflation. Le prix de l'heure augmente en raison de ce que vous coûte la moindre tâche à accomplir. Mais puisque tout est long et prend des heures, la valeur de chaque heure diminue. L'augmentation du coût va de pair avec la diminution de la valeur. Par rapport aux tâches qu'elles peuvent contenir, les heures sont bon marché. On ne se bat plus contre la montre, mais contre les tâches. La technologie moderne cherche à élargir l'espace de l'homme et à resserrer son temps. Pour un handicapé, l'espace est contracté et le temps distendu. C'est la raison pour laquelle la vie de l'aveugle se distingue peu à peu de celle des voyants.
Jean-François Beauchemin. Jean-François, c'est l'homme qui a vu le ciel de si près qu'il a failli se perdre dans les nuages. Alors, il a choisi la terre pour y vivre pleinement, son amour avec un grand A et son amour des mots avec plein de M majuscules. Ce jeune marié a vu couler plein d'encre sous sa plume. À l'heure où la misérable vie de nos personnes âgées dans les CHSLD fait soudainement l'objet d'un souci constant, de la part de nos futurs premiers ministres, Beauchemin, lui, nous dresse le portrait d'une maison de retraite où il fait bon vivre. Enfin, ça dépend de l'étage où l'on est, bien sûr. Et dans ces couloirs qui ne sentent pas toujours la rose, voilà que des parfums d'amour se mêlent aux effluves de rébellion et de jalousie qui parsèment cette communauté de vieilles âmes. Voici un extrait de « J'attends Joséphine », une sorte de remontage du chapitre 2, et renommé pour la circonstance, le jour où le monde a disparu de ma vue. Ah, petit détail, la voix que vous entendrez, c'est celle de l'auteur Jean-François Beauchemin.
« Ma femme et moi vieillissions comme d'habitude, avec le corps qui continuait de faire son travail de fruit mûr. Comme toute personne parvenue à un certain degré de décrépitude, nous avions bien entendu nos moments de consternation gérontologique face à l'avenir. Et cependant, la plupart du temps, nos sourires ne reculaient pas et demeuraient armés jusqu'aux dents. Puis, un matin, vers les 11 heures, je commençais à ne plus bien voir les choses visibles à l'œil nu. Je reprenais de temps à autre du poil de la bête, mais dans l'ensemble, le regard me filait à l'anglaise. Le soleil avait beau m'arriver sur les membres avec sa chaleur et surtout sa lumière légendaire, celle-ci ne m'illuminait plus l'œil, autrefois pourtant si visionnaire. Ma femme, Joséphine, devait sans cesse me tenir le bras, sinon j'avançais dans les murs et les meubles. Partout, les objets me surprenaient dans les jambes. Je fus d'ailleurs, une fois ou deux, assommé frugalement par l'embrasure de la porte venue à ma rencontre. Même manger ne fut plus de la tarte, puisque chaque bouchée empruntée à mon assiette arrivait difficilement à destination, la main ne sachant plus où donner de la tête et cherchant contre vents et marées la bouche égarée. C'est à partir de ce temps que, comme pour remplacer les paysages, les meubles, les portes, Joséphine et tout autre objet apparent, je me mis à remarquer plutôt les choses du dedans. À voir, par exemple, mes souvenirs lointains enfermés dans la mémoire et gisant là, entre les branches. À un moment, je reconnus avec beaucoup de sentiments mes jeunes années pleines de franchise et de force électromagnétique, et aussi les ombres aveuglantes, les trahisons, les songes de l'enfance et leurs conséquences inépuisables, puis les départs au petit jour, les retours, la flèche blanche de la douleur, les erreurs à peine nées qui, en une nuit, fleurissent comme des cactus désertiques. Les pensées perdues, retrouvées et remises sur leur 31. La joie et ses grandes mains de Saint-Joseph. Et puis, je me suis rencontré, sortant à peine de l'adolescence, jeune homme déjà au bout du rouleau, travaillant du matin au soir d'arrache-pied dans les usines, le dos courbé sous le poids de sa jeunesse, épuisant d'avance à même ses réserves d'avenir. C'était étrange de retrouver avec tant de précision ces fruits du souvenir, jamais tombés de leurs branches et comme attendant depuis toujours d'être cueillis. Peut-être aussi leur croissance n'était-elle pas encore terminée et restait-elle suspendue d'ici à ce qu'un éclairage nouveau se répande sur ma vie, si on me permet une parenthèse métaphysique. Mais je m'étonnais surtout du fait que ce que j'apercevais dans ma mémoire ne correspondait pas tout à fait à ma vie de tous les jours, comme si j'étais devenu, à la longue, quelqu'un d'autre que prévu. Quoi qu'il en soit, la surdité de mes yeux mit bientôt la puce à l'oreille de ma femme, qui harponna le téléphone pour prendre rendez-vous. À l'hôpital, un médecin spécialiste du regard, dont j'oublie le nom professionnel, m'étudia pendant un long moment. Puis je fus mitraillé de tests divers concernant ma vision du monde, y compris les panoramas, le ciel, les maisons, ma femme Joséphine et tout objet susceptible de me faire trébucher les jambes. Par la suite, nous fûmes assis dans une pièce pour y attendre les résultats. Le spécialiste nous arriva au bout d'une heure avec son diagnostic et, puisqu'il paraissait désolé, il nous invita dans son bureau. « J'allais être aveugle pour toujours, m'annonça-t-il, parce que mes yeux, parvenus à leur âge, n'en pouvaient plus de tant d'activité optique. » Alors j'ai demandé s'il n'était pas faisable de remplacer ces yeux-là par de nouveaux yeux inconnus, avec leur émerveillement, leur perception des couleurs et des formes, leurs larmes versées parce que le monde, parfois, est si beau à regarder. Mais cette possibilité oculaire n'était pas envisageable. Notre vie revint à ses moutons. Je fus entièrement aveugle un matin vers les 10 heures. Mes yeux inutiles et source de carambolage m'obligèrent à beaucoup d'immobilité sur le canapé à motif. C'est pourquoi je me tournai bien des fois vers mes images introspectives, entassées dans le crâne depuis tout ce temps, à mon insu, pour ainsi dire. En fait, ça n'était plus tant des souvenirs à présent qu'une espèce de tapisserie rêveuse, ondulante et imprévisible. J'avais le sentiment de me promener dans un petit jardin désordonné que je décidai un jour d'appeler mon âme. Ma femme était partout dans ce jardin. Je la vis jeune, telle qu'elle était quand je l'ai connue, et qu'elle n'avait encore qu'un corps contemporain de son âge, et non pas celui d'aujourd'hui, si émouvant pour avoir tant vécu. Je redécouvris son visage, ravissant et si décoratif, avec ses yeux, comment dire, ferroviaires, parfaitement parallèles, comme des rails. Je vis tout cela, et également ses hanches, très accessibles et si bien localisées, qui, à force d'entrer dans l'avenir, se sont modernisées en embellissant encore. Je reconnus par-dessus le marché ses jambes hédonistes, l'un des endroits de sa personne les plus requis pour danser sur Aznavour dans le salon. Ah, et encore aussi ses merveilleux cheveux qui, déjà à cette époque, lui descendait de la tête en passant par les épaules. Oh, et j'aperçus, en outre, sa poitrine si géographique, avec son relief, devenue avec le temps tout aussi captivante grâce au réel qui passa par là. J'entrevis surtout pour la première fois l'âme de mon épouse. Enfin, si c'est bien ce que je crois. Ça n'était pas un jardin, au contraire du mien, mais une sorte de grange avec des animaux de ferme très doucement debout, mâchonnant le foin et comme interrogeant leur rêverie de paysan. Je comprenais cette rêverie-là. Et je me disais que si Joséphine et moi étions encore, même à notre âge avancé, à ce point voisins sur le plan corporel et amoureux, ce devait être parce que, au fond, nos âmes et leurs rêveries se combinaient. Telle fut, à partir de là, ma définition de l'amour humain. Deux tapisseries intérieures mélangeant leurs motifs. D'où, je présume, le mot « émotif », si bien trouvé pour décrire ce qui décore tant l'âme du bien-aimé.
Merci beaucoup, Jean-François Beauchemin. Toute bonne chose a une fin, mes amis. En guise d'épilogue, juste avant de mettre un point final à cette dégustation littéraire, permettez-nous de vous partager quelques mots d'un des plus célèbres aveugles de la littérature, Borges. Borges, de son vrai nom, Jorge Francisco Isidoro Luis Borges. Et mais plus encore sous le simple nom de Borges tout court. Il est né en 1899 à Buenos Aires. Il a progressivement perdu la vue, puis la vie, en 1986. Souvent nommé pour le Nobel de littérature, mais il ne l'a jamais obtenu. Il disait, Borges, que d'autres se targuent des pages qu'ils ont écrites. Moi, je suis fier de celles que j'ai lues.
Éloge de l'ombre, peut-être de la poésie de fin de vie. La vieillesse, c'est le nom que les autres lui donnent, peut être le temps de notre bonheur. La bête est morte ou presque morte, reste l'homme et son âme. Je vis parmi des formes lumineuses et vagues qui ne sont pas encore les ténèbres. Buenos Aires, autrefois effiloché en banlieue vers la plaine incessante, est redevenue la Recoleta et le Retiro, les rues brumeuses de l'Once et les vieilles maisons précaires qu'on appelle encore le Sud. Dans ma vie, les choses furent toujours trop nombreuses. Démocrite d'Abder s'arracha les yeux pour penser. Le temps a été mon Démocrite. Cette pénombre est lente et ne fait pas mal. Elle coule sur une pente douce et ressemble à l'éternité. Mes amis n'ont pas de visage. Les femmes sont ce qu'elles furent il y a tant d'années. Je ne sais pas si ce coin de rue a changé. Il n'y a pas de lettres sur les pages des livres. Tout cela devrait m'effrayer, mais c'est une douceur, un retour. Parmi les générations de textes qu'il y a sur la terre, je n'en aurai lu que quelques-uns, ceux que je continue à lire dans ma mémoire, à lire et à transformer. Du sud, de l'est, de l'ouest, du nord, convergent les chemins qui m'ont conduit à mon centre secret. Ces chemins furent des échos et des pas, des femmes, des hommes, des agonies, des résurrections, des jours et des nuits, des demi-rêves et des rêves, chaque infime instant du passé et des passés du monde, la ferme épée du Danois et la lune du Persan, les actes des morts, l'amour partagé et les mots, Emerson et la neige, et tant de choses. À présent, je peux les oublier. J'arrive à mon centre, à mon algèbre, à ma clé, à mon miroir. Bientôt, je saurai qui je suis.
Ainsi s'achève cette soirée, mes amis. Nous espérons, mais vraiment, que vous en garderez le souvenir ému et paradoxalement peut-être lumineux. Si mettre au monde ce genre de souper littéraire ne demande pas 9 mois, il n'en reste pas moins vrai qu'elle réclame de la part d'une équipe soudée beaucoup de travail et de la générosité. Alors laissez-moi vous présenter tous ceux qui, absolument bénévolement, comme le font plus de 300 bénévoles chaque année, qui prêtent leur voix, leurs yeux et leurs oreilles pour que tous puissent avoir accès à la littérature, à vues et voix. Donc laissez-moi vous présenter ces gens-là. Yvonne Sénéchal et José Gay à l'accueil. Armène Souaï au son. Marie-Claude Brasseur, Jacques Tremblay et Michel Keble à la lecture. Merci aussi à Jean-François Beauchemin, notre auteur invité. Merci à Alejandro, à toute l'équipe du restaurant Au Noir en cuisine et en salle, notamment aux serveurs qui vivent au noir, de jour comme de nuit. Et enfin, un merci tout spécial à Jacques Tremblay. Il est l'initiateur, le recherchiste et le réalisateur de cette soirée.
Envie de prolonger les moments de lecture de ce soir? Eh bien, n'hésitez pas et jetez un coup d'œil à la librairie mise à votre disposition ce soir pour lire et connaître peut-être un peu plus les auteurs de votre et de notre dégustation. Je m'appelle Clotilde Seille. J'ai vraiment été très, très heureuse d'être votre guide ce soir. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. À l'année prochaine, pourquoi pas. Alors voilà ce qui met un terme à cette retransmission à Canalem de la soirée Au Noir, présentée par Vues et Voix dans le cadre du Festival international de la littérature. Ici Clotilde Seille et Mathieu Tessier en régie qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres livres plein les oreilles.